pense qu'au début, j'essayais de trop en faire. Puis, tu sais, comme beaucoup d'éléments, puis il y avait comme pas de cohésion, il y avait pas de rien qui serait qui faisait du sens.
Remettre un peu des éléments que tu cherchais dans chaque restaurant.
Mais je pense que oui, tu sais, je pense qu'évidemment, tu sais, quand on crée puis on sort d'une place, on a toujours les influences des places où, fait que, tu sais, j'essayais de recréer ça, ça marchait pas, puis aussi dans un environnement aussi qui était pas le même.
Bonjour, je suis Pascal.
Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
Allez, c'est parti, on est dans le jus.
Alors, tu l'ouvres quand ton resto ? Je gage que cette phrase, notre invité l'entend pas mal souvent en ce moment. En effet, elle est aujourd'hui en plein dans les travaux de ce qui sera bientôt son premier restaurant. Mais je vais gager aussi que cette phrase, ce « tu l'ouvres quand, ton resto ?», notre invité l'entend déjà depuis plusieurs années. Quand tu es cuisinier, on dirait que c'est l'objectif ultime, l'aboutissement logique d'une carrière. Ça commence quand tu es apprenti, par tes proches bien sûr, tes parents y rêvent déjà pour toi. Ça continue au fil de tes jobs, tes amis t'y verraient bien. Tu la sens, la pression sociale ? Si tu deviens chef de cuisine, alors tes employés commencent à s'y mettre, tes anciens collègues aussi. Et puis, parfois, un jour, tu te sens fort, tu te sens prêt. Toi aussi, tu veux prouver au monde et à toi-même que tu as des choses à dire. Et tu vas les dire de la seule manière que tu connaisses, sur une assiette. Aujourd'hui, c'est Catherine qui est dans le jus.
Waouh. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Salut Catherine.
On sent qu'il y a du vécu de sa part, en tout cas, dans cette introduction. Est-ce que tu peux... Donc, est-ce que c'est le cas pour toi ? C'est ce qui s'est passé ? Est-ce que ce qu'il décrit, ça te concerne vraiment aussi ?
Oui et non, dans le sens où moi, c'était un but à un moment donné de... que je voulais avoir mon propre restaurant, mais ça n'a pas toujours été le cas dans mes débuts. Là. Je voyais mes chefs galérer... ça avait l'air tellement d'être une grosse charge que je me disais, je serais jamais capable de le faire. Puis il y a quelques années, il y a 6 ans, je me suis dit, c'est ça que je pense que j'aimerais faire. J'ai envie d'ouvrir mon restaurant.
Et est-ce que avant que tu aies envie d'ouvrir ton restaurant, les gens autour de toi te posaient la question, tu l'ouvres quand ton resto?
Oui, non, j'avais pas vraiment cette dynamique-là. Je pense que les gens, tu sais, j'ai toujours été très honnête. De où est-ce que je me situais, puis c'était quoi mes capacités et tout. Puis les gens, je pense que les gens respectaient ça. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, je pense que j'aimerais ça le faire, tout ça. Puis,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour que tu aies envie d'ouvrir le resto, ou c'est juste la maturité du métier?
Des frustrations.
Des frustrations?
Ah ouais?
Des frustrations, des trucs que je voyais dans le milieu, que j'étais comme, ça fait pas de sens. Puis oui, en étant employé, tu peux faire changer des choses en ayant une parole et tout, mais vraiment comme l'impact que tu peux avoir, c'est vraiment en ayant ton restaurant pour implanter des philosophies, des valeurs qui sont propres pour toi, puis de créer un nouveau chemin pour les générations futures.
Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces frustrations, de quelques exemples?
Quelques exemples, mais sujet tabou, on n'en parle pas, on essaie de pas trop en parler parce que ça vient animer souvent les discussions, les pourboires, évidemment.
Oui.
Les relations salle-cuisine, pour moi, ça m'a tout le temps frappé qu'il y ait tout le temps cette séparation-là. Puis avec un parcours, je suis partie 2 ans au Danemark, puis j'avais pas cette dynamique-là avec eux parce que le front of house et le back of house, ils travaillaient ensemble. Tout le monde rentrait en même temps, tout le monde partait en même temps et il y avait l'équité salariale. Donc, à poste égal, tout le monde gagnait un salaire similaire. Puis les pourboires étaient répartis de façon équitable aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment important. Puis, je suis arrivée, puis j'étais comme, OK, c'était un gros choc pour mon début de justement de ne pas avoir cette rivalité-là entre la salle et la cuisine. Puis, j'étais comme, OK, ça, c'est mon but ultime. Quand je vais revenir à Montréal, quand je vais revenir chez moi, Ça va être ça, c'est ça que je veux faire.
Alors, est-ce qu'on va un peu plus dans le sujet ou on parle des autres frustrations?
Parlons des autres frustrations, on y reviendra.
Okay. Parce qu'on va y revenir, parce que c'est un sujet super important.
C'est tous des sujets un peu connexes. Tu sais, comme moi, j'ai toujours aimé justement avoir cet esprit de famille, de partage. Puis, tu sais, avec la salle et la salle à manger, je trouvais ça super important. Le fait aussi que, tu sais, des fois, on s'assoyait jamais pour manger, on prenait jamais une demi-heure de pause ou des trucs comme ça. Fait que ça, pour moi, c'était vraiment...
Tu parles salle et cuisine, ou que salle, mais, ou que cuisine, ou ensemble?
Les deux ensemble, tout seul, ou tu sais, comme des fois, la salle prenait une pause, mais la cuisine, on n'avait pas le temps, puis évidemment, on avait vraiment pas le temps, mais c'est juste des fois où il faut trouver le temps. Hein, puis,
on prend pas le temps.
On prend pas le temps, c'est vraiment ça.
C'est un petit quart d'heure, c'est pas ça qui va changer.
Non, c'est ça. C'était déjà dans la merde, tu vas être quand même dans la merde 15 minutes plus tard, c'est pas ça qui va changer.
Mais tu seras plus relax et tu auras mangé.
Mais c'est ça. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment important. Ça aussi, ça vient aussi de mon background du Danemark, où on était obligés de s'asseoir. J'ai déjà vu mon chef de cuisine nous engueuler comme du poisson pourri parce qu'on n'avait pas pris notre pause. Puis ça m'avait frappé, puis j'étais comme, hey, tu sais, je fais aller ton travail. Puis il est comme, non, il dit, si t'es pas bien, si t'es pas à ta meilleure de ta forme, tu seras jamais au meilleur de ta forme avec nos clients. Et que ça m'avait comme resté dans la tête. Puis j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est une belle philosophie. Si toi, tu te sens pas bien, c'est sûr que tu peux pas te donner le meilleur dans ton travail.
Ça fait combien de temps que t'es partie au Danemark?
Je suis partie en fin 2017 jusqu'en 2019.
Finalement, c'est ton voyage à l'étranger qui t'a un peu...
Ça a complètement changé ma vision de faire de la restauration. Parce qu'un peu avant, je pensais quitter. Je pensais retourner à l'école.
Ah ouais?
Ouais. Parce que justement, il y avait des choses, j'avais des frustrations, je savais pas comment les résoudre. Clairement, j'avais pas la maturité non plus pour parler de ces frustrations-là. Puis je suis rentrée là-bas, j'ai eu un gros choc, et culturel, et tout, en fait. Hein. Puis ça, on dirait que ça m'a ouvert. Ça a été très difficile, mais ça a été vraiment la plus belle expérience.
C'est à réinsuffler du
vraiment,
le feu.
Vraiment, puis ça m'a donné espoir qu'on peut changer la restauration, puis on peut changer... On peut créer un nouveau chemin pour les générations futures. Puis
alors, ça fait seulement 3 minutes qu'on parle, il y a déjà 2 gros sujets. Waouh, attention, ça risque d'être intense.
Donc, c'est ça.
Est-ce que on va revenir sur ton époque Danemark, parce que je pense que c'est important d'y revenir, parce que ça a été un déclencheur.
Ouais.
Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi avant? Alors déjà, comme je vais piquer la question d'Emeric habituelle, est-ce que tu as toujours voulu être cuisinière?
Absolument
chef?
Pas. Non, vraiment pas.
C'est ma question, ça. Hein?
Voilà. J'étais en joaillerie avant. J'ai fait mes études à Montréal. Justement, je suis sortie de l'école, je sortais du secondaire. Je suis allée au Cégep du Montréal, puis il y avait l'école de joaillerie de Montréal aussi, qui est sur Maisonneuve, si je ne me trompe pas. Puis j'ai fait tout mon... j'ai gradué. Puis pendant un an, j'ai essayé... Parce que dans le fond, ils te forment à être travailleur autonome. Puis, mais j'étais trop jeune. J'étais trop immature.
Est-ce que tu fabriquais des bijoux?
Ouais, exact.
Okay. T'avais quel âge?
J'avais 22 ans.
Ah ouais, 22 ans. 22 ans.
Pour être travailleur autonome, c'est très, c'est beaucoup demandé.
Ouais, quand même.
Surtout, tu sais, comme 22 ans, c'est encore un enfant, là. On ne sait pas vraiment qui on est. Là, je venais de rentrer dans la grande ville. Moi, je viens de la région, tout ça. J'étais comme, OK, c'est un autre monde qui s'ouvrait à moi. Puis j'étais juste comme, OK.
Où est-ce que tu viens, Catherine?
Je viens de Grimby.
Ah oui, canton de l'Est.
Canton de l'Est,
oui. Pas pareil là-bas.
Non, pas du tout. Mais c'était le meilleur move que j'ai fait aussi. Là. Donc, je suis partie. Puis, en fait, il y a une de mes amies, elle était à Bishop. Puis, on est allé vivre à Sherbrooke ensemble. Puis, on a bien... bien vécu.
Donc, tu es allée à l'université Sherbrooke, c'est
non,
ça?
Non, même pas. Alors... Non. Il y a juste une de mes amies qui était là-bas. Elle était comme... Ça t'entends-tu de venir avec moi? J'étais allée à Sherbrooke, puis j'ai dit, ah, je vais partir ma petite boutique là-bas, ça va être parfait.
OK, après la joaillerie.
Après la joaillerie.
OK.
Puis finalement, ça aboutit à absolument rien. Puis je faisais juste cuisiner pour mes collègues tout le temps. Puis j'ai dit, ah, ça ne te tenterait pas de t'essayer à rentrer dans une école de cuisine? C'est de l'air plus trippé que de faire de la joaillerie parce que je n'étais pas assidue et quoi que ce
soit. Mais est-ce que tu avais déjà à ce moment-là travaillé comme job étudiant dans les restos ou pas?
Dans
un
petit café.
Dans un petit café.
Dans un petit café, justement, avec cette amie en question.
Genre barista ou.
Oui, c'est ça. Puis on faisait des petits sandwichs, mais c'était vraiment. Très de base, là. C'était des choses préachetées et tout ça, puis on continuait. Mais j'aimais la dynamique de justement cette espèce de rush, puis on avait une belle énergie, puis j'essayais de retrouver ça à quelque part, puis dans aucun travail, j'avais retrouvé ça.
OK, et donc à Sherbrooke, tu t'es ça a commencé à naître chez toi?
Oui, mais c'est vraiment juste parce que je cuisinais pour mes amis, puis j'aimais ça, puis j'essayais des nouvelles recettes, puis j'étais comme, bon, fait que mes amis étaient comme, ah, tu devrais t'essayer. Puis comme de fait, je me suis essayé à un moment donné, puis j'étais comme, ah.
Alors, t'as essayé comment ouais? Eh oui!
premièrement, j'ai essayé de rentrer en pâtisserie. Ils m'ont refusé.
Où ça?
À l'école de à l'THQ.
Ah oui,
ouais, bah, ouais. Fait que je m'étais dit, ah, la pâtisserie, ça serait mon genre, tout ça. Puis non, j'ai été refusée. Fait que là, je me suis dit, ah, ben je vais essayer en cuisine parce qu'il y avait comme plus d'opportunités, mm-hmm. plus d'ouverture. Puis pour être honnête, je suis rentrée là-bas, je n'avais même pas coupé un oignon, là, pour vrai. C'était, mm-hmm. c'était gênant. Parce qu'il y avait plein d'autres de mes collègues que ça faisait déjà quelques années qu'ils travaillaient en restauration. Puis moi, j'étais comme, non, j'avais travaillé dans un petit café, mais sans plus. Là. Fait que je suis rentrée en cuisine, puis je suis tombée en amour avec la cuisine.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec la cuisine?
L'énergie, je pense.
Ouais.
L'énergie, vraiment, puis justement, de toujours... Puis même si, dans ma famille, on a tout été super ouvert justement aux aliments, des trucs comme ça, de goûter des nouvelles affaires, mais là, j'avais comme encore une fois, un autre monde qui s'ouvrait à moi, des nouvelles saveurs, puis tout ça, des combinaisons aussi, que je trouvais ça assez... J'aimais aussi l'espèce de rigueur qu'il y avait en cuisine, là, l'espèce de... Le service, puis il faut que ce soit à temps, faut que ce soit... Je sais pas, je trouvais que c'est une belle danse.
OK, donc tu as fait ton école.
Oui.
Et puis, je sais que tu as travaillé dans des belles... belles compagnies.
Mais moi, j'ai été la plus chanceuse du monde.
Ouais.
Tout le temps. J'ai tout le temps été... Je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui veille sur moi. J'étais à l'école, justement, j'étais vraiment probablement la moins bonne de ma classe. Puis mon professeur, Olivier Guiriac, à un moment donné, il était comme... Ah, je revenais d'un stage en Corse. Mm-hmm. Et au retour, il était comme, ah, t'as-tu un emploi? Puis j'étais comme, ah, non, tu sais, je cherche encore un peu. Puis là, il était comme, ah, mais j'ai peut-être quelqu'un pour toi. Il dit, va au Bouillon Bill. Je savais absolument pas c'était quoi. Il dit, le chef là-bas, François, je pense qu'il cherche tout le temps des étudiants.
Bouillon Bill, un resto gastro à Montréal.
Oui, vraiment. C'est selon moi le meilleur. Mais, puis, donc, c'est ça. Fait que j'avais porté mon CV. Premièrement, le chef était dans son sous-sol. Il était une jambe dans le plat. Je m'en souviens, j'ai l'image exacte de François. Puis, je suis allée porter mon CV. Puis, il était comme, ah non, j'ai pas besoin de personne. Fait que là, j'étais comme, ah, OK. Puis là, j'ai dit, ah, c'est mon professeur Olivier Guiriac qui m'a envoyé. Puis, il était, ah, OK. Il m'a fait faire un essai. Puis, finalement, je suis restée. Fait que ça a été ça, mon début, là. J'ai été vraiment chanceuse. J'ai eu un beau contact. J'imagine que mon professeur avait vu quelque chose en moi, puis que je n'avais pas encore vu, puis t'es comme, tu fais très bien, là.
T'es resté combien de temps au Bouillon Bill?
En tout et partout, à peu près 3 ans, mais je suis partie au travers de tout ça, là. J'étais allée travailler à l'Hôtel Hermann.
Ouais, très belle, très belle maison aussi, là, qui est éphémère, là, qui n'a pas duré longtemps,
belle
malheureusement.
Belle maison aussi, beaux humains. Ouais. C'est vraiment, c'était une belle expérience, ça. C'était vraiment le fun. J'ai eu des beaux amis là-bas. Puis je suis revenue, j'ai ouvert le cadet avec François et un autre de mes collègues. Puis après, je suis partie au Marconi, qui est sur Mozart avec Mehdi et Molly. Puis au travers de ça, puis après, je suis allée faire mon stage au Danemark à Raleigh.
OK.
Un stage dans quel cadre, en fait? Parce que tu as déjà travaillé pas mal de temps dans les restos.
Oui, non, quand j'étais à l'époque de l'Hôtel Hermann, il y avait un de mes collègues, Grégoire. Lui, il avait travaillé à Raleigh. Puis il était comme, ah, je pense que tu fais très bien là-bas. Comme ça vaudrait la peine que tu essaies. Puis j'avais acheté le lit, j'avais commencé à regarder, puis tout ça. Puis il dit, ah, je vais te mettre en contact avec... Quand j'avais décidé d'être sérieuse par rapport à ce stage-là, je l'avais contacté, puis il dit, ah, je vais appeler mon chef, puis tout ça, puis je vais te mettre en contact. Puis c'est comme ça que j'ai eu mon stage. Encore une fois, j'ai une chance, là. Je suis tout le temps bien entourée de belles personnes. Puis après ça, c'était un stage de 2 mois, puis après 1 mois, ils m'ont proposé si ça me tentait de rester avec eux pour travailler. Puis,
tu es restée quelques années.
Je suis revenue, puis je suis revenue régler pour sous-louer mon appartement, puis je suis repartie.
Alors, c'était où? À Copenhague, c'est ça?
À Copenhague, oui.
OK.
J'ai fait Raleigh 2 mois, puis...
Parle-nous un petit peu du restaurant, parce qu'on ne connaît pas forcément le restaurant.
Le restaurant, c'est un restaurant étoilé Michelin, mais il est principalement connu pour ses valeurs d'environnement durable, essayer de le moins de gaspillage possible. Aussi, un côté assez humain, quand on était là-bas. Justement, tu sais, comme quand je vous parlais, il fallait qu'on s'assoie pour tout manger ensemble, puis on avait des repas de famille, si on veut.
Et au niveau de la nourriture, est-ce que tu as découvert, j'imagine que tu as découvert une autre façon de travailler?
Oui, vraiment.
Des nouvelles choses, parce que la cuisine danoise, c'est ça va en poupe depuis quelques années. Là, c'est vraiment, ça rayonne au niveau mondial.
Oui, puis mais c'est ça. Là, j'ai été, je suis allée au relais, mais finalement, il y avait besoin de place au bar à vin juste en face.
OK.
Fait que même philosophie, même rigueur et tout, mais un petit peu plus casual. Donc, je travaillais là-bas pendant 2 ans, puis j'ai été sous-chef. Puis là aussi, ça a été vraiment comme une autre façon de cuisiner. Eux autres, ils cuisinaient vraiment plus les légumes, puisqu'on était moins habitués ici à Montréal à l'époque. Tu sais, je pense qu'il y en a toujours eu, mais c'était tout le temps plus un accompagnement. Là-bas, c'était plus la protéine était un accompagnement. Fait que nécessairement, c'était pas. Fait que là, c'était une autre façon aussi de repenser, de manger. Puis,
Ouais, je pense que l'héritage de Montréal était plutôt de la cuisine française. Et puis, mais petit à petit, ça change parce que le terroir et la philosophie, je pense, est quand même assez proche de celle du Danemark, évidemment, avec le climat.
Oui, oui, vraiment. Mais tu sais, par rapport à ça, par rapport aux légumes ou des trucs comme ça, j'ai pas été déstabilisée. Là. Pour vrai, on a vraiment un climat vraiment similaire. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme on a tous les mêmes légumes.
Puis avec la tradition de fermentation aussi, qui est très cuisine du nord de l'Europe.
Oui, oui, oui.
Il y a une histoire commune entre les deux pays, entre le Québec et le Danemark. Ouais. Donc,
est-ce que tu peux nous parler de ta vie là-bas?
De ma vie là-bas?
Oui, parce que c'est important de parler de restauration, mais je pense qu'il n'y a pas que la restauration qui a fait qu'enclencher ce déclic. Le niveau de vie, ton confort de vie.
C'est vraiment, vraiment chouette là-bas, pour être honnête. Puis si je serais probablement pas revenue si ce n'était pas pour mes relations personnelles ici au Québec. Là. C'était vraiment. On avait vraiment. C'était beaucoup de travail. Hein. Puis c'était des longues heures de travail. Par contre, on travaillait jamais comme plus que 3 jours à 4 jours. Hein. Fait que, tu sais, c'était des semaines de 3 jours, ensuite 4 jours de congé, ensuite 3 jours de congé. Fait que, tu sais, ça te permettait aussi d'avoir pas juste... La restauration, oui, ça fait partie de notre vie, mais ça faisait pas juste... C'était pas juste ça, la restauration. Mmh. On se définissait pas juste par la restauration, puis...
Est-ce que tu travaillais en coupure ou c'était des journées continues?
Non, c'était des journées continues. Okay. Fait qu'on rentrait le 10h le matin, on faisait le service du lunch, puis après, on avait notre 30 minutes de pause à 4h, 4h30. Puis après, on faisait notre service du soir, puis on recommençait. Puis on finissait à peut-être minuit, 9h du matin.
OK, donc ça faisait des grosses journées, mais tu faisais 3 ou 4 grosses journées, suivies de 3 ou 4 journées off.
Fait que, tu sais, je pense que, si je me souviens bien, on travaillait comme 7 jours dans le mois.
Et c'était 2 équipes séparées qui travaillaient comme ça? Donc, tu étais toujours avec la même équipe ou c'était genre
Non, parce que notre restaurant, le Manfred, c'était ouvert 7 jours sur 7. Fait qu'on avait comme 2 équipes, mais on se voyait quand même tout le temps. Là.
OK.
Puis Relay, eux autres, ils étaient ouverts 4 jours. Si je me trompe pas, 4 jours, 5 jours.
Mm-hmm.
Puis eux autres, c'est pas mal toute la même équipe. Là.
Est-ce que tu étais bien payé par rapport Vraiment. Au niveau de vie?
Oui, ça, ça a été le gros choc aussi. Là. Quand j'ai eu mon premier chèque, j'étais comme. C'était vraiment. Puis c'est là aussi je me suis dit, comme, on n'est pas obligé de faire un salaire médiocre pour faire notre passion. Là. On peut avoir un beau niveau de vie, puis bien vivre. Puis,
Donc, non seulement tu avais des jours off, mais ouais. Tu avais de l'argent pour...
J'avais de l'argent.
pour en profiter.
J'avais un équilibre de vie aussi. Tu sais, comme t'sais, si j'avais le temps, si j'avais envie d'aller 3 jours à Berlin parce que j'avais 3 jours consécutifs de congé, ben, je pouvais y aller, puis je pouvais aller voir d'autres choses. Puis aller, c'est aussi, je pense que ça permet de s'inspirer, de voir d'autres choses.
Parce que c'est ça qui est quand même une grosse différence entre l'Europe et le Canada, c'est que tout est très, très proche.
Oui.
Et tout est facilement accessible en train,
ouais.
LTGV, sûrement entre un train à grande vitesse peut-être, entre le Danemark et Berlin.
Je l'ai jamais pris.
Bon, en tout cas...
Mais je pense qu'il y en a un, oui. Ouais. Puis je sais qu'il y en a un entre Copenhague puis Malmö.
Ouais, ouais, OK, en Suède.
Oui. Donc, non.
T'en as profité pour voyager un petit peu?
Oui.
Alors, t'as fait quoi, alors? Berlin?
J'ai fait Berlin, Paris. Je suis allée faire un pop-up en Islande avec ma chef. On est allé là une semaine.
Norvège, un petit peu?
Non, mais cette année, ça a été ma première fois en vacances.
Okay.
Mais je suis allée en Suède, évidemment, parce que c'était à côté.
Ouais.
C'est comme une demi-heure de train, puis t'étais rendu. Mais non, j'en ai pas profité autant que j'aurais voulu, parce que quand j'étais ici au Canada, j'étais comme, tous les week-ends, je vais être là-bas. Mais ouais, tu tombes dans ta routine aussi. Ouais. Là,
Oui, mais en plus,
t'as besoin de jours te reposer, ouais. Tu fais rien. Là.
Ouais. C'est important aussi. Tu dois socialiser aussi avec sociabilité.
Oui. Puis l'autre gros truc, c'était tout le monde se promène à vélo.
Ah!
La baisse vie. Ça, c'était vraiment... j'ai adoré ça.
Et t'as gardé cette habitude...
Absolument pas.
À Montréal? Non, pas du tout.
J'ai essayé, puis je me suis fait voler mon vélo après 2 jours, puis j'étais comme non, okay, ça me tente plus.
C'est fini.
Alors, tu sais ce qu'on m'a dit, moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'était il y a longtemps, j'ai acheté un vélo, Au bout de 3 semaines, je me suis fait voler et une cuisinière avec qui je travaillais m'a dit « Aymeric, maintenant tu peux te considérer comme un vrai Montréalais parce que tu t'es fait voler ton vélo. »
Non, mais c'est incroyable ici. Ils ont passé mon vélo par-dessus le poteau de stop. Hein.
Ah ouais, quand même.
Dans ma petite ruelle. Là, classique.
T'es au Danemark, révolution, et puis tu rentres quand même parce que tu veux retrouver tes racines.
Oui.
Plein d'idées, le feu sacré retrouvé.
Oui, mais je suis revenue ici, puis là, j'ai eu un autre choc.
Ah!
Là, comme la petite dépression de revenir au Québec,
ah oui.
Justement, de retrouver toutes ces habitudes-là, puis t'es comme, ah, waouh, ça n'a pas changé. Même en 2 ans, comme j'ai t'aurais pensé que ça aurait bougé, puis tout ça. Fait que non, après, je suis allée retravailler avec mon ancien chef, justement, de l'hôtel Hermann, chef de cuisine, Benjamin. Il avait maintenant pris les rênes du Petit Mousseau, qui était chef là-bas. Mm-hmm. Fait que, il y a un soir, j'étais allée manger là-bas, puis j'étais comme, ah, ça te tente, t'as-tu de la place pour moi? Puis il est comme, hey, non, j'ai personne. Puis finalement, il m'a appelé deux semaines après. Il était comme, ah, j'aurais peut-être un petit temps partiel. Puis finalement, le temps partiel est devenu un temps plein. Puis là, je suis restée là-bas avec eux, jusqu'à la pandémie, en fait.
OK.
Fait que ça a été...
Notre découverte?
Ben oui, différente, mais c'était surtout aussi les gens avec qui je travaillais là-bas, ça a été un coup de cœur. Hein. C'était vraiment des belles personnes. Hein. Il y avait 5 garçons avec moi, puis vraiment, là, les plus belles personnes du monde. Fait que ça a été... justement, quand la pandémie est arrivée, c'était plate, parce qu'on commençait à bâtir quelque chose tout ensemble. Finalement, la pandémie est arrivée, puis j'étais sans emploi. Puis, à un moment donné, justement, mon chef François, il m'a envoyé un texto. Il était comme, ah, il dit, je pense qu'on cherche un chef de cuisine au Foxy. Puis, j'étais comme, ah, j'ai tellement pas les compétences pour faire ça. Là. Puis, tout ça, il était comme, appelle, t'as rien à perdre. Là. Fait que j'ai appelé, hein, j'ai rencontré Véronique Dalle, qui était sommelière là-bas et maître d'hôtel. On a eu une première discussion, j'ai eu une première rencontre avec elle et Diane et Eric. Puis j'ai été super 100% honnête. Là. J'étais comme, moi, je sais pas cuire une pièce de viande. T'sais, eux autres, c'est un gros grill argentin avec four à bois et tout.
C'est ça.
Tout réapprendre à cuisiner. Puis je sais pas, ça a été un coup de cœur. Ils ont été satisfaits avec mon honnêteté, I guess. Hein. Puis ils m'ont engagé, puis je suis devenue chef en pandémie.
Donc, tu étais ton premier poste de chef.
Premier poste de chef en pandémie. On fait la réouverture, donc juillet 2020.
Alors, est-ce que tu avais un menu déjà établi? Ou
non, même pas.
Ils t'ont dit,
Non, en fait, c'est que je devais reprendre les recettes de la chef qui était en congé de maternité à l'époque.
OK.
Fait que j'étais comme, OK, parfait. Puis ça a été vraiment, vraiment difficile de réintégrer une nouvelle équipe en pandémie avec un menu
Tu connaissais pas?
Que je connaissais pas, des recettes que je connaissais pas.
Une méthode de cuisson que tu connaissais?
Non, même pas. J'ai jamais travaillé au feu de bois ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça a été vraiment tout un réapprentissage à réapprendre à
cuisiner. Tu beaucoup à la braise, sur grill, hein,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, c'est juste ça. On a 4 inductions là-bas. Là. Puis un rational, puis pour les, mettons, les pâtisseries ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais la plupart se fait dans le four à bois et sur le grill. Là.
T'as aimé ça?
J'ai aimé ça. Ça a été ardu, mais j'ai vraiment aimé ça. Ça a été une autre très, très, très belle expérience. Là.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans la responsabilité de chef?
Oh mon Dieu, on n'est juste jamais prêt, là. Ça n'a pas rapport. Ouais. Mais en plus, nous, on avait d'autres défis. Donc, c'est ça, on a réouvert en juillet, après on a retombé en pandémie. Ah. Puis au début...
Les bons souvenirs.
Ouais, ouais. Eux autres, ils n'ont pas fait de take-out. Hein. Puis moi, j'étais comme... Moi, je peux pas rester à la maison encore un autre 6 mois à pas faire rien. Fait que finalement, on a décidé d'ouvrir pour le take-out. Fait que tout... Revoir un menu, mettre ça en place, être sûr que les clients, que le repas se rende bien à la table puis que ce soit aussi beau.
Est-ce que quand tu as pris le poste de chef de cuisine là-bas, Foxy, tu as commencé à apporter un peu ton style ou à trouver ton style peut-être de cuisine là-bas?
Oui, mais ça a pris du temps pour vrai.
Ouais.
Parce que j'étais supposée de rouler le menu pendant vraiment un moment avec toutes les recettes qu'il avait bâties, parce que ça faisait déjà 6-7 ans qu'il y a les autres étaient ouverts. Fait qu'il y a une belle banque de recettes. Puis finalement, les recettes ne fonctionnaient pas. À chaque fois que je les faisais, ça ne fonctionnait pas.
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas?
Je sais pas. C'est comme si j'arrivais pas à réinterpréter ce que la chef d'avant voulait faire. Hein.
Ah, OK. Donc, toi, quand tu les faisais, tu n'arrivais pas au résultat
non.
que.
Puis, tu sais, mes patrons, Eric et Diane, ils mangeaient souvent au restaurant, puis ils étaient comme 4. Ça goûte pas pareil. la texture est pas pareille, puis tout ça, puis j'étais comme, pourtant, je suis la recette à la lettre. J'avais l'équipe qui avait déjà travaillé avec l'ancienne chef, puis ils disaient, ouais, mais on a fait la même chose, puis ça fonctionnait juste pas. Puis j'étais comme, tu sais, est-ce que vous me laisseriez essayer mes recettes à moi, mm-hmm. tu sais, de faire mes créations? Puis ils ont fait, OK. Puis à partir de ce moment-là, oui, au fur et à mesure.
Tu te rappelles du premier plat vraiment à toi que t'as mis?
Ça a été un dessert. Hein.
Ah ouais?
Ah, pâtisserie, allez, hein,
tu vois, on retourne à la pâtisserie.
C'est quand même drôle. Ouais. Mais oui, c'est notre chou pâtisserie avec... c'était tout simple. Là. C'était bleuette Charles cuit au four à bois avec une ganache montée, yaourt et chocolat blanc. Puis bleuet frais, zeste de citron. Ça a été
tout
ça.
Simple?
Tout simple. Mais ça a été ça. Puis les gens avaient aimé ça. C'est sûr, c'est des bleuets puis du chocolat.
Et alors, ça t'a encouragé à pousser un peu ton style,
oui,
à trouver,
oui,
ta voix.
Absolument.
Est-ce que...
Mais mon style a vraiment évolué en 4 ans. Là.
Ça a été vraiment, alors tu peux nous parler de ça?
Oui, mais je pense qu'au début, j'essayais de trop en faire. Hein. Puis,
ah oui.
Puis tu sais, comme beaucoup d'éléments, puis il n'y avait comme pas de cohésion, il n'y avait pas de rien qui faisait du sens.
Remettre un peu des éléments que tu avais... Tu cherchais dans chaque restaurant.
Mais je pense
que
oui, tu sais, je pense que évidemment, tu sais, quand on crée puis on sort d'une place, on a toujours les influences des places où, fait que, tu sais, j'essayais de recréer ça marchait pas, puis aussi dans un environnement aussi qui était pas le même, clientèle qui était pas la même, c'était moins, c'était, puis au fur et à mesure avec justement ma collègue Véronique, tout ça, elle m'a aidé à justement faire faire un travail un peu plus précis.
Mm-hmm.
Puis, je pense qu'au fil du temps, je pense que j'avais trouvé ma ligne conductrice par rapport à ça. Puis maintenant, moins d'éléments dans le, mais plus précis.
OK. Est-ce que tu peux nous parler de tes plats préférés?
Mes plats préférés?
Ou le plat que tu préférais faire à la fin, celui que t'es le plus fier?
Mais je pense pas qu'il y en a un plus qu'un autre, parce que plus on le fait, plus on est tanné de le voir.
Oui, hein. Ça, je comprends.
Mais je sais qu'il y avait une recette... Ben, un plat en soi que les gens aimaient vraiment beaucoup, là. On l'appelait la Monster Lettuce. Hein. C'était les super laitues des Jardins Caria.
Ah oui.
Puis, tu sais, très, très simple.
Ramzy, si tu nous entends. Eric.
Oui. Mais non. Tel
un amour.
Oui, ces laitues sont quand même assez incroyables. Donc, on avait décidé de travailler la laitue Cherokee. Puis, on avait fait une émulsion de moule avec riz soufflé sauvage, salicorne, puis plein d'herbes. Il y avait de la coriandre, du papalo, il y avait de la livèche. C'était juste ça, le dish. Mais ça a été vraiment très apprécié. Puis à chaque fois que mon staff, on le faisait, ah oui, puis on mettait les fleurs de chez Pousse-toi.
Ah oui.
Donc, qui est un collègue, puis un voisin aussi, là, qui habite dans Hochelaga aussi.
Ah bon?
Oui.
Ah, je ne savais pas.
Sur Adam, je crois. En tout cas.
Okay, puisque là, on est au bar caché de l'hélicoptère, qui est le copilote qui vient d'ouvrir et qui nous reçoit gentiment pour cet entretien.
Puisque
ton resto n'est pas prêt. On devait le faire dans ton resto. Et puis hier, à 1h du matin, j'ai reçu un petit message. Ah, les planchers ne sont pas secs, il faut qu'on trouve un autre coin ailleurs. Alors David, gentiment, nous a autorisé à squatter son bar caché.
Donc, ça, c'était notre Monster Lettuce. Hein. C'était une grosse laitue, toute simple. Hein. Mais encore là, c'était peu d'éléments, mais bien travaillé. Puis,
Et t'as gardé ce style-là un petit peu?
Oui, mais j'essaie vraiment de trouver les meilleurs produits possibles, avec les meilleures fermes, tout ça, puis d'avoir le moins d'interventions possibles pour vraiment mettre en valeur le produit. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui me...
Ça vient du Danemark?
Oui, ou tu sais, moi aussi, j'ai vieilli aussi. Ouais. J'ai moins besoin de prouver qu'on a besoin d'avoir 15 éléments dans une assiette. Quoique, tu sais, si les gens font ça, c'est parfait aussi. C'est juste moi, ça me rejoint moins. C'est moins mon style.
Et quel est ton style de présentation à l'assiette?
Assez minimaliste aussi, je pense.
Minimaliste, est-ce que c'est très travaillé? Est-ce que c'est plutôt brut? Est-ce que c'est...
Hey, bonne question. C'est vraiment, je sais pas.
Ok, on ira
moi,
voir.
Je pense que
Instagram.
Moi, je pense que
voir,
c'est...
Ah oui, le Foxy, je n'ai pas été voir hier.
Ouais.
Faudra que j'aille voir. Je vais aller...
Mais oui...
C'était pour voir s'il y avait tes études de joaillerie
c'est sûr que ça a une influence. C'est sûr que ça a une influence. Puis je pense qu'inévitablement, on nous apprend aussi à une certaine précision de comment... Ouais,
harmoniser les formes, les couleurs.
Oui. Je pense que oui, il doit avoir aussi une minutie. Je pense que là-dessus aussi, je suis quand même assez. Sûr.
Et donc là, tu fais ton cheminement au Foxy et puis ton envie d'avoir ton restaurant à toi.
Mais en fait, quand on a eu notre première rencontre, moi j'ai toujours dit que le but ultime, c'est que j'allais avoir mon restaurant
déjà là.
5 à 6 ans. Okay. Mais tu sais, moi je m'étais dit 35 ans, si j'ai mon restaurant. Ça va être parfait.
Donc, t'avais quel âge au moment-là?
29 ans.
OK.
Quand j'ai pris mon premier poste de chef, j'avais 29 ans. Tout ça, fait que je m'étais dit 35 ans, ça ferait du sens. Tu sais, j'aurais un beau parcours. Chef à 30 ans, 35 ans, premier restaurant, tout ça. Fait que ça reste comme ça. Fait que ça a tout le temps été super honnête, la discussion. Il savait qu'éventuellement, j'allais avoir mon propre restaurant. Puis, trois ans plus tard, on a eu un appel d'un agent immobilier commercial. Qui a contacté mon copain, puis tout ça. Il dit, hey, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai un local dans le village que tu as déjà visité. Ça, c'est comme, il est à vendre.
Donc, il y a quelqu'un qui t'a contacté pour te dire, OK, on a un local à toi.
Oui, mais il a contacté mon copain.
Ah ouais.
Mais oui, fait que c'est ça. On est au chalet, tout ça. Et il nous contacte. Et comme, OK, mais on revient mercredi. On peut.
Regarder par curiosité.
Oui. Puis, pour être honnête.
Par curiosité.
Mon copain a toujours 1 million de projets, fait qu'il était comme, ça va être ça pour. Puis finalement, on a vu l'espace, puis c'était un petit 30 places assises, mon rêve. Hein. Mm. Fait qu'on a vu le local, tout ça, j'étais comme, waouh, c'est quand même.
OK.
C'était quelque chose, puis c'était beaucoup d'émotions. C'était comme, hey, je suis clairement pas prête. Tu sais, j'ai quand même. Moi, j'avais pour but de faire mes 5 ans chez Foxy, tout ça, j'étais comme, c'est super important pour moi. Fait que je prends le temps d'y réfléchir, puis finalement. On a fait une offre, puis elle a été acceptée.
Okay. T'avais pas le temps d'y réfléchir.
Non.
Mais oui, puis non, parce que ça a été quand même long. Là. On aurait pu se retirer à plusieurs reprises, mais ça faisait du sens aussi à long terme.
Puis t'étais en amour avec le local.
Oui, puis c'était un quartier dans lequel j'avais déjà vécu. Ouais. C'est un local dans lequel moi puis mes colocs, on allait bruncher. Fait que, on dirait que tout faisait du sens, si on retournait là-bas, puis on était comme OK, puis...
Est-ce que la situation, parce que le village connaît une situation un petit peu...
parce difficile. Que le restaurant, le local est dans le village, il faut préciser quand même.
Sur Atatecan.
Sur Atatecan, à côté du métro Baudry. On sait que c'est un quartier qui est difficile en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes d'itinérance et tout ça. Est-ce que ça t'a inquiété ou pas trop? Tu disais, c'est mon quartier, je le connais, je l'aime, j'y vais.
Ben, un peu, oui. Puis, pour être honnête, dans n'importe quel quartier, il y a toujours quelque chose. J'habite dans Hochelaga Maisonneuve.
Ouais.
C'est pas le quartier, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sont prouvés dans Hochelaga que ça fonctionnerait.
Ben, c'est ça aussi. On est dans un des locales
qui le
prouve. Hein,
oui, absolument.
Resto haut de gamme à Hochelaga.
Ouais.
Quand il l'a ouvert, David, c'était il y a 7-8 ans. Je pense que. C'était assez novateur et puis
il a beaucoup de gens qui ont dit comme t'es sûr mais non, je pense que ça fait du sens aussi dans le quartier, puis t'es de plus en plus, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'installent dans le quartier, puis t'es un des premiers, ça a été Antonin avec le Mousseau puis le Petit Mousseau. Là, maintenant, il y a la gang du Midway, si je ne me trompe pas, qui ont ouvert le Moqueur. Il y a toujours le Red Tiger. Il y a le Hautain aussi, qui est super chouette. Tu sais, je pense que...
Le Blossom aussi.
Le Blossom aussi.
Qui est vraiment à côté de d'où
Barassa,
tu vas
ouvrir.
Ouais, donc, tu sais, je pense qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe dans le village et tout. Là. Fait que non, pour être honnête, est-ce que oui, des fois, ça m'inquiète? Oui, absolument. Je veux pas être...
Ça fait partie de la...
Oui, c'est ça. Puis tu sais, comme... C'est pourquoi aussi j'ai pris la décision de cette année de ne pas avoir de terrasse, parce que je veux juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans le quartier, comment ça se va, comment ça se vit et tout. Après, on verra, mais...
Donc
les
attaque...
Les choses intéressantes.
Parce que je suis passé, je vous ai laissé parler pendant un moment.
Ça t'excite, les travaux, je le sais, je te connais trop, Pascal.
Mais en fait, avant de parler des travaux, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir.
Oui.
J'avais une question, en fait, depuis tout à l'heure. Au Foxy, quand tu y étais, est-ce que tu as essayé d'apporter cette vision où, par rapport aux tips, est-ce que ça fait partie des discussions à un moment
aux heures de travail?
Ça fait partie des discussions avec, mettons, mes patrons, avec Véronique aussi, mais je pense qu'on n'était pas prêts.
C'est compliqué. C'est dur de changer une fois que tu t'es installé et que tu as tourné pendant des années avec un même modèle.
C'est correct aussi.
Et puis, légalement, tu ne peux pas en l'imposer non plus, le partage des pouvoirs.
C'est vraiment, ça revient aux employés, aux serveurs. Oui.
Mais sinon, les heures étaient sans coupure, c'était...
Non, c'est ça. Moi, j'ai essayé de faire le plus juste possible au meilleur de mes capacités, que que les employés de cuisine fassent pas plus que 45 heures. Mais là-dessus aussi, on avait toujours notre demi-heure de repas qui était imposée. Évidemment, je criais pas après eux, mais j'allais les voir venez manger.
Est-ce que c'était des repas en commun?
Oui. Oui, oui,
non, on c'est te disait.
Quel que tu l'as instauré?
Oui, ça, non, c'est super important pour moi. Puis, on l'avait déjà instauré pendant la pandémie. On faisait tout un repas. Puis, quand on a réouvert la salle à manger, j'étais comme, ça va-tu à qu'on continue? Puis, fait qu'on a toujours fait les staff meals entre 4h, 4h30. Puis, on s'assoit tout ensemble. Puis, on mange. Ça a tout été super le fun.
Le staff meal était payant ou il était offert?
Offert.
Donc, c'était toi qui faisais un plat ou quelqu'un dans l'équipe qui faisait un plat?
Ouais.
Avec les restes sûrement, un truc...
Ouais, les restes, puis... mais tu sais, enfin, c'est pas moi, c'est vraiment... C'est Eric et Diane, là,
ah, oui, carrément, ouais, oui.
Qui payaient.
Mais oui, c'est là,
mais c'est leur générosité, puis ah, ouais. Quand je leur en ai parlé, ils étaient quand même enclins et tout, donc ils se sont pas
interposés. C'est rare, donc là. Il faut le souligner quand même.
Ouais, fait que... Ouais. Pour moi, c'est important, puis ils voyaient que c'était important pour moi, fait qu'ils étaient comme, vas-y, va de l'avant, puis non. Mais non, je pense que ça fait quand même... Ça fait une grosse différence dans la dynamique... Puis j'ai trouvé qu'on avait une belle dynamique entre la salle et la cuisine.
Donc, quand tu as décidé de prendre le local, ça a été quoi la réaction de l'équipe et de tes propriétaires?
J'ai attendu. La seule personne à qui j'en ai parlé, c'est avec Véronique. Je me souviens, on s'est assis sur la terrasse, puis j'étais comme, faut que je te dise quelque chose. Puis je pleurais. J'arrêtais juste plus de pleurer. J'étais comme, je m'en vais. Ça a été vraiment comme... ouais, ça a été une dure séparation parce que, dans le fond, j'étais encore bien. J'avais encore ma place là-bas, mais j'avais envie d'explorer un nouveau chemin, tout ça. Fait que ça a été vraiment... ouais, ça a été dur. Puis après, je l'ai dit à Eric puis Dai. On est allé manger ensemble, puis là, je leur ai annoncé. Puis le dernier, ça a été à mon équipe. Donc ça, ça a été...
Ça a dû être dur, ça. Ouais. T'as encore les larmes aux yeux. Ouais, ça a dû être sacrément dur parce que... Ouais. Tu t'es fixé un objectif et puis les aléas de la vie font que, les opportunités font que tu dois prendre une décision qui est la meilleure pour toi. Quoi. Mm-hmm. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dès demain pour la suite de cette conversation. Ciao, ciao.